Patrice Lacombe, La terre paternelle. Chapitre 1. Un enfant du sol. Parmi tous les sites remarquables qui se déroulent aux yeux du voyageur, lorsque, pendant la belle saison, il parcourt le côté nord de l'île de Montréal, l'endroit appelé le Gros Saut est celui où il s'arrête de préférence. Frappé qu'il est par la fraîcheur de ses campagnes et la vue pittoresque du paysage qui l'environne. La branche de l'Outaouais, qui en cet endroit prend le nom de « rivière des prairies », y roule ses eaux impétueuses et profondes jusqu'au bout de l'île, où elle les réunit à celle du Saint-Laurent. Une forêt de beaux arbres, respectés du temps et de la hache du cultivateur, couvre dans une grande étendue la côte et le rivage. Quelques-uns, déracinés en partie par la force du courant, se penchent sur les eaux et semblent se mirer dans le cristal limpide qui baigne leurs pieds. Une riche pelouse s'étend comme un beau tapis vert sous ces arbres, dont la cime touffue offre une ombre impénétrable aux ardeurs du soleil. L'industrie a su autrefois tirer parti du cours rapide de cette rivière, dont les eaux alimentent encore aujourd'hui deux moulins, l'un sur l'île de Montréal, appelé « Moulin du Gros Saut », et naguère la propriété de nos seigneurs, et l'autre, presque en face, sur l'île Jésus, appelé « Moulin du Crochet », appartenant aux messieurs du séminaire de Québec. Le bourdonnement sourd et majestueux des eaux, l'apparition inattendue d'un large radeau chargé de bois entraîné avec rapidité au milieu des cris de joie des hardis conducteurs, les habitations des cultivateurs situées sur les deux rives opposées à des intervalles presque réguliers et qui se détachent agréablement sur le vert sombre des arbres qui les environnent, forme le coup d'œil le plus satisfaisant pour le spectateur. Ce lieu charmant ne pouvait manquer d'attirer l'attention des amateurs de la belle nature. Aussi chaque année, pendant la chaude saison, est-il le rendez-vous d'un grand nombre d'habitants de Montréal, qui viennent s'y délasser pendant quelques heures des fatigues de la semaine et échanger l'atmosphère lourde et brûlante de la ville contre l'air pur et frais qu'on y respire. Parmi toutes les habitations de cultivateurs qui bordent l'île de Montréal en cet endroit, une se fait remarquer par son bon état de culture, la propreté et la belle tenue de la maison et des divers bâtiments qui la composent. La famille, qui était propriétaire de cette terre il y a quelques années, appartenait à une des plus anciennes du pays. Jean Chauvin, sergent dans un des premiers régiments français envoyés en ce pays, après avoir obtenu son congé, en avait été le premier concessionnaire, le 20 février 1670, comme on peut le constater par le terrier des seigneurs. Puis il l'avait légué à son fils Léonard. Des mains de celui-ci, elle était passée par l'héritage à Gabriel Chauvin, puis à François, son fils. Enfin, Jean-Baptiste Chauvin, au temps où commence notre histoire, en était propriétaire comme héritier de son père François, mort depuis peu de temps, chargé de travaux et d'années. Chauvin aimait souvent à rappeler cette succession non interrompue de ses ancêtres, dont il s'enorgueillissait à juste titre, et qui comptait pour lui comme autant de quartiers de noblesse. Il avait épousé la fille d'un cultivateur des environs. De cette union, il avait eu trois enfants, deux garçons et une fille. L'aîné portait le nom de son père, le cadet s'appelait Charles et la fille Marguerite. Les parents, par une coupable indifférence, avaient entièrement négligé l'éducation de leur garçon. Ceux-ci n'avaient eu que les soins d'une mère tendre et vertueuse, les conseils et l'exemple d'un bon père. C'était sans doute quelque chose, beaucoup même, mais tout avait été fait pour le cœur, rien pour l'esprit. Marguerite, là-dessus, avait l'avantage sur ses frères, on l'avait envoyé passer quelque temps dans un pensionnat, où le germe des plus heureuses dispositions s'était développé en elle. Aussi, c'était à elle qu'était dévolu chaque soir, après le souper, le soin de faire la lecture en famille. Les petites transactions, les états de recettes et de dépenses, les lettres à écrire et les réponses à faire, tout cela était de son ressort et lui passait par les mains, et elle s'en acquittait à merveille. Cependant, malgré le défaut d'instruction des chefs de cette famille, tout n'en prospérait pas moins autour d'eux. Le bon ordre et l'aisance régnaient dans cette maison. Chaque jour, le père, au dehors, comme la mère à l'intérieur, montrait à leurs enfants l'exemple du travail, de l'économie et de l'industrie, et ceux-ci les secondaient de leur mieux. La terre, soigneusement labourée et ensemencée, s'empressait de rendre au centuple ce qu'on avait confié dans son sein. Le soin et l'engrais des troupeaux, la fabrication des diverses étoffes et les autres produits de l'industrie formaient l'occupation journalière de cette famille. La proximité des marchés de la ville facilitait l'exportation du surplus des produits de la ferme, et régulièrement, une fois la semaine, le vendredi, une voiture chargée de toutes sortes de denrées et conduite par la mère Chauvin, accompagnée de Marguerite, venait prendre au marché sa place accoutumée. De retour à la maison, il y avait reddition de comptes en règle. Chauvin portait en recette le prix des grains, du fourrage et du bois qu'il avait vendu. La mère, de son côté, rendait compte du produit de son marché. Le tout était supputé jusqu'à un sou près, et soigneusement enfermé dans un vieux coffre, qui n'avait presque servi à d'autres usages pendant un temps immémorial. Cette scrupuleuse exactitude à toujours mettre au coffre et à n'en jamais rien retirer que pour les besoins les plus urgents de la ferme, avait eu pour résultat tout naturel d'accroître considérablement le dépôt. Aussi, le père Chauvin passait-il pour un des habitants les plus aisés des environs, et la commune renommée lui accordait volontiers plusieurs mille livres au coffre, qu'en père sage et prévoyant, il destinait à l'établissement de ses enfants. La paix, l'union, l'abondance régnaient donc dans cette famille. Aucun souci ne venait en altérer le bonheur. Contents de cultiver en paix le champ que leurs ancêtres avaient arrosé de leur sueur, ils coulaient des jours tranquilles et sereins. Heureux, oh ! Trop heureux les habitants des campagnes s'ils connaissaient leur bonheur. Chapitre 2. L'engagement. On était au mois de février. La journée du jeudi venait de s'écouler à faire les préparatifs ordinaires pour le lendemain, jour de marché. La soirée était avancée et l'on parlait déjà de se retirer, quand Chauvin, suivant son habitude, sortit pour examiner le temps. Il rentra bientôt en prédisant, à certains signes infaillibles qu'il tenait de ses ancêtres, du mauvais temps pour le lendemain. Marguerite, qui comptait déjà sur le plaisir du voyage à la ville, ne partagea pas, comme on le pense bien, l'opinion de son père. Néanmoins, il fut décidé qu'en cas de mauvais temps, le jeune Charles accompagnerait sa mère. Puis chacun se retira, le père désirant n'être pas pris en défaut et Marguerite conjurant l'orage de tous ses vœux. Cependant, Chauvin avait pronostiqué juste. Pendant la première partie de la nuit, la neige tomba lentement et en larges flocons. Puis, le vent s'étant élevé, l'avait balayé devant lui et amoncelé en grands bancs, à une telle hauteur que les routes en étaient complètement obstruées. L'entrée même des maisons en était tellement encombrée que le lendemain matin, Chauvin et ses garçons furent obligés de sauter par une des fenêtres de la maison, pour en déblayer les portes et pouvoir les ouvrir. L'état des chemins rendit pour un moment le voyage indécis. Mais le père remarqua judicieusement que le mauvais temps empêcherait très sûrement les cultivateurs d'entreprendre le voyage de la ville, que c'était pour lui le moment de faire un effort et de profiter de l'occasion. Les deux meilleurs chevaux furent donc mis à la voiture, qui se mit en route, traçant péniblement le chemin, et laissant derrière elle Force, Chaos et Ornière. Les chevaux enfonçaient jusqu'au-dessus des genoux, mais les courageuses bêtes s'en tirèrent bien, et le voyage s'accomplit heureusement, quoique lentement. Ce que Chauvin avait prévu était arrivé. Le marché était désert. Aussi n'est pas besoin de dire avec quelle rapidité le contenu de la voiture fut enlevé, et combien la vente fut plus productive encore que de coutume. Dans le courant de la journée, le vent, qui avait cessé depuis le matin, commença à souffler avec plus de violence. Les traces récentes des voitures disparurent sous un épais tourbillon de neige. Dès lors, le retour fut regardé comme impossible. La mère Chauvin et son fils se décidèrent donc de passer la nuit à la ville et prirent logement dans une auberge voisine. L'auberge était en ce moment encombrée de personnes que le mauvais temps avait forcé d'y chercher un abri pour la nuit. Au fond de la salle commune, derrière le comptoir, deux jeunes garçons étaient empressés à servir, à de nombreuses pratiques, des liqueurs de toutes sortes et de toutes couleurs. Les pipes étaient allumées de toutes parts et formaient un brouillard qui combattait victorieusement le jet de gaz brillant suspendu au-dessus du comptoir. Les exhalaisons qui s'échappaient des vêtements trempés de sueur et de neige fondue, l'humidité du plancher, l'odeur du tabac et des liqueurs frelatées, un poêle double placé au milieu de la salle et chauffé à 100 degrés, tout cela pourra aider nos lecteurs à se faire une idée de l'auberge en ce moment. Dans un coin, plusieurs jeunes gens tenaient ensemble une conversation très animée. Sans tenir aucun compte des sages directions que leur donnait l'enseigne à grandes lettres blanches qu'on lisait sur la porte d'entrée, « divers sirops pour la tempérance », la plupart étaient ivres et faisaient retentir la salle de leurs cris. C'étaient des jeunes gens qui venaient de conclure leur engagement avec la compagnie du Nord-Ouest pour les pays hauts et auxquels l'agent avait donné rendez-vous dans cette auberge pour leur en faire signer l'acte en bonne forme le lendemain et leur donner un acompte sur leur gage. On peut à peu près se figurer quelle était la conversation de ces jeunes gens, dont plusieurs n'en étaient pas à leur premier voyage, et qui se chargeaient d'initier les novices à tous les détails de la nouvelle carrière qu'ils se disposaient à parcourir. Le récit de combats d'homme à homme, de traits de force et de hardiesse, de naufrages, de marches longues et pénibles, avec toutes les horreurs du froid et de la faim, tenait l'auditoire en haleine, et lui arrachait par intervalles des exclamations de joie et d'admiration. La conversation, fréquemment assaisonnée d'énergiques jurons dont nous ne blesserons pas les oreilles délicates de nos lecteurs, s'était prolongée fort tard dans la soirée, lorsque l'entrée de l'agent dans la salle vint la ralentir pour un moment. L'appel nominal qu'il fit des jeunes gens prouva quelques absents, mais sur l'assurance qu'ils lui firent que les retardataires arriveraient la nuit même, l'agent prit congé d'eux en leur recommandant d'être ponctuels le lendemain au rendez-vous. Charles avait été jusque-là spectateur tranquille de cette scène. Il fut à la fin reconnu par quelques-uns de ces jeunes gens, fils de cultivateurs de son endroit, et par eux présenté à la bande joyeuse. Ils lui firent alors les plus vives instances pour l'engager à se joindre à eux. Les plus forts arguments furent mis en jeu pour vaincre sa résistance. Charles continuait à se défendre de son mieux. Mais les attaques redoublèrent. Les sarcasmes même commençaient à pleuvoir sur lui et portaient de terribles blessures à son amour-propre. Peut-être même aurait-il succombé dans ce moment si sa mère, inquiète de le voir en si turbulente compagnie, ne fût venue à son secours et, le prenant par le bras, l'entraîna loin du groupe. Le maître de l'auberge, s'approchant alors des jeunes gens, leur représenta que la plus grande partie de son monde était déjà couchée et leur persuada, non sans peine, d'en faire autant. Alors, s'étendant les uns sur le plancher, près du poêle, les autres sur les bancs autour de la salle, nos jeunes gens finirent par s'endormir, et l'auberge redevint silencieuse. Il n'en fut pas ainsi de Charles. Il ne put fermer l'œil de la nuit. Les assauts qu'il avait essuyés, la conversation qu'il avait entendue, avaient fait sur sa jeune imagination des impressions profondes. Ses voyages aux pays lointains se présentaient à lui sous mille formes attrayantes. Il avait souvent entendu de vieux voyageurs raconter leurs aventures et leurs exploits avec une chaleur, une originalité caractéristiques. Il voyait même ces hommes entourés d'une sorte de respect que l'on est toujours prêt à accorder à ceux qui ont couru les plus grands hasards et affronté les plus grands dangers. Tant il est vrai que l'on admire toujours, comme malgré soi, tout ce qui semble dépasser la mesure ordinaire des forces humaines. D'ailleurs, la passion pour ces courses aventureuses, qui heureusement s'en vont diminuant de jour en jour, était alors comme une tradition de famille et remontait à la formation de ces diverses compagnies qui, depuis la découverte du pays, se sont partagées successivement le commerce des pelleteries. S'il est vrai que ces compagnies se sont ruinées à ce genre de commerce, il est malheureusement vrai aussi que les employés n'ont pas été plus heureux que leurs maîtres, et l'on en compte bien peu de ces derniers qui, après plusieurs années d'absence, ont pu, à force d'économie, sauver du naufrage quelques épargnes péniblement amassées. Après avoir consumé dans ces excursions lointaines la plus belle partie de leur jeunesse pour le misérable salaire de 600 francs par an, ils revenaient au pays, épuisés, vieillis avant le temps, ne rapportant avec eux que des vices grossiers contractés dans ces pays, et incapables, pour la plupart, de cultiver la terre ou de s'adonner à quelque autre métier sédentaire, profitable pour eux et utile à leurs concitoyens. Charles n'était point d'âge à faire toutes ces réflexions. Il n'envisageait ses voyages que sous leur côté attrayant et qui favorisait ses goûts et ses penchants. L'idée d'être enfin affranchi de l'autorité paternelle et de jouir en maître de sa pleine liberté l'entraîna à la fin. Son parti fut arrêté. Restait le consentement de son père. Aussi ce ne fut pas sans laisser écouler plusieurs jours, et après beaucoup d'hésitation, qu'il osa, en tremblant, lui faire part de son projet. Comme on le pense bien, le père s'indigna, gronda fortement, et voulut interposer l'autorité paternelle, qu'il avait maintenue avec succès jusqu'alors. La mère et Marguerite essayèrent le pouvoir des larmes, mais inutilement. On eut recours à l'intervention des amis, mais sans plus de succès. Alors le père, après avoir épuisé tous les moyens en son pouvoir pour détourner son fils de ce dessein, se vit forcé d'y consentir, et l'engagement fut conclu pour le terme de 3 ans. Comme on était alors vers le milieu d'avril et que le jour du départ était fixé pour le 1er mai suivant, on s'occupa d'en faire les préparatifs. Le jour de la séparation fut un jour de tristesse et de deuil pour cette famille. Le père et le frère comprimaient leur douleur au-dedans d'eux-mêmes. La mère et Marguerite donnaient un libre cours à leurs larmes. « Pauvre enfant, lui disait sa mère, tu nous quittes, hélas, peut-être pour ne plus te revoir. Combien comme toi sont partis et ne sont jamais revenus ?» Puis, détachant de son cou une antique médaille portant d'un côté pour effigie la Vierge et l'enfant Jésus, de l'autre Sainte Anne, patronne des voyageurs, elle la passe au cou de son fils en lui disant « Tiens, mon fils, porte toujours sur toi cette médaille. Chaque fois que tu la sentiras battre sur ton cœur, pense à Dieu. Ne la quitte jamais, me le promets-tu ?» Le jeune homme ne répondit que par des sanglots. Il tombe à genoux, reçoit la bénédiction et les derniers embrassements de son père et de sa mère, prend ses hardes soigneusement empaquetées par Marguerite, les suspend à un bâton, et chargeant le tout sur ses épaules, il sort de la maison paternelle. Accompagné de son père, de son frère et de quelques voisins, leurs amis, qui le reconduisirent à quelque distance. Puis il continua seul sa route, non sans jeter de temps en temps quelques regards en arrière sur les lieux de son enfance, qu'il n'espérait plus revoir de longtemps. Il était déjà bien loin lorsqu'un léger bruit le fit regarder en arrière. C'était le chien de la maison. L'intelligent animal avait vu son jeune maître s'éloigner sous des circonstances extraordinaires, et il s'était, de son chef, constitué son compagnon de voyage et son défenseur. « Comment ? C'est toi, Mordfort, pauvre chien ?» Après avoir rendu les caresses à cet ami fidèle, il voulut lui faire rebrousser chemin. Mais le chien s'obstinant à le suivre, Charles prit une pierre pour l'effrayer. Et après en avoir menacé longtemps, il la lui lança. Malheureusement, le coup fut trop bien dirigé. La pierre alla frapper à la patte le pauvre animal, qui s'enfuit en boitant et en jetant un cri de douleur, et tournant sur son maître un regard qui semblait lui reprocher son ingratitude. Le coup retentit dans le cœur de Charles, qui détourna les yeux et continua rapidement sa route vers la Chine, lieu du rendez-vous, et y arriva vers la fin du jour. La plupart des voyageurs y étaient déjà réunis. Il y retrouva ses compagnons de l'auberge. Mais on craignait les désordres et la désertion parmi les engagés. Pendant la nuit, on les envoya camper dans l'île d'Orval, à quelque distance du village. Le lendemain, on les ramena à terre, et tout étant prêt pour le départ, les canots, montés chacun par 14 hommes, sans compter les bourgeois et les commis, furent poussés au large. Aussitôt, à un signal donné, un vieux guide entonna la gaie chanson du départ. « Derrière chez nous y a-t-il une pomme, voici le joli mois de mai, qui fleurit quand il ordonne, voici le joli mois qu'il donne, voici le joli mois de mai. » Les avirons, obéissant à la cadence, faisaient bouillonner l'eau autour des canots, qui fendait l'eau avec rapidité, s'efforçant de se dépasser de vitesse et laissant derrière eux de longs sillons. Bientôt les chants s'affaiblirent, les sillons s'effacèrent et les canots ne parurent plus que comme des points noirs à l'horizon. La foule, accourue sur le rivage pour être témoin du départ, se dispersa en silence. Que Dieu daigne conduire les pauvres voyageurs! Chapitre 3. Un notaire au rabais. La douleur causée par le départ du jeune Charles se fit longtemps sentir dans la famille. Mais le temps, ce grand maître, qui à la longue calme les plus grandes afflictions, vint à bout de celle-ci comme de toutes les autres. Les occupations avaient repris leur routine habituelle, et rien en apparence ne faisait remarquer l'absence de Charles. Seulement, on savait que, chaque soir, après la prière en commun, la mère et sa fille prolongeaient la leur de quelques minutes. Il n'est pas besoin de dire pour qui étaient ces prières ferventes, souvent entrecoupées de longs soupirs. Le père paraissait le seul qui eût le plus généreusement fait son sacrifice. Il lui restait encore son fils aîné, qui, depuis le départ de son jeune frère, avait redoublé de soins et d'attention pour lui. Le père, de son côté, sentait sa tendresse s'accroître pour celui qu'il regardait maintenant comme son fils unique. Le plus grand malheur qu'il redoutait était de voir ce fils les abandonner à son tour. Aussi cherchait-il tous les moyens de se l'attacher plus étroitement. Il crut à la fin en avoir trouvé un bien efficace. Et comme il ne prenait jamais de résolution tant soit peu importante sans consulter sa femme, il s'empressa de lui en faire part. « Tu sais, ma chère femme, lui dit-il, que nous avons déjà perdu un de nos enfants, j'ai bien peur que l'aîné nous quitte à son tour. J'ai pissé des marches depuis quelques jours, et il me semble qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire en lui. Je lui ai même entendu dire à un de nos voisins qu'après tout, son frère n'avait pas si mal fait, qu'il reviendrait dans 3 ans, avec de l'argent devant lui et qu'il pourrait alors s'établir, au lieu que lui ne serait pas alors plus avancé. Que deviendrions-nous, ma chère femme, s'il lui prenait envie de nous quitter ? Sais-tu que j'ai dans la tête un projet qui doit nous l'attacher pour toujours ? J'y pense depuis quelque temps, et je crois que tu seras de mon avis. Ce serait de lui faire donation de tous nos biens, moyennant une rente viagère qu'il nous paierait. Par ce moyen, il se trouvera maître de la terre et ne pensera plus à partir. Qu'en dis-tu ? Cela mérite bien réflexion, répondit la femme. Je n'y avais pas encore pensé. Seulement, je te ferai observer que plusieurs se sont donnés comme cela à leurs enfants, et n'ont eu que du chagrin avec eux. Mais, ma chère femme, est-ce que tu craindrais quelque chose de semblable de notre fils ? Il s'est toujours montré si bon pour nous. D'ailleurs, on fera faire l'acte par un bon notaire. Nous commençons à être avancés en âge, et je pense que ce serait le meilleur moyen d'être heureux sur nos vieux jours. Eh bien, répondit la femme, prenons le temps d'y réfléchir, et nous en reparlerons plus tard. La conversation s'était ainsi prolongée entre Chauvin et sa femme jusqu'auprès de l'église où ils se rendaient. C'était un dimanche. Dans toutes les directions, et aussi loin que la vue pouvait s'étendre, on voyait arriver les paroissiens, ceux qui demeuraient près de l'église, à pied, les plus éloignés, en voiture ou à cheval. Et à mesure que ces derniers arrivaient, ils attachaient leurs montures aux poteaux rangés symétriquement sur la place publique au devant de l'église. Puis les groupes se formèrent, on parla temps, récolte, chevaux, jusqu'à ce que le tintement de la cloche leur annonça que la messe allait commencer. Tous alors entrèrent dans l'église et suivirent l'office divin avec un religieux silence. La messe finie, on se hâta de sortir pour assister aux criées. Ces criées, qui se font régulièrement le dimanche à la porte des églises, sont regardées comme de la plus haute importance par la population des campagnes. En effet, toutes les parties des lois qui l'intéressent, police rurale, vente par autorité de justice, les ordres du grand voyer, des sous-voyers, des inspecteurs et sous-inspecteurs, s'y publient de temps à autre et dans les saisons convenables. C'est pour eux la gazette officielle. Ensuite viennent les annonces volontaires et particulières, en camp de meubles et d'animaux, choses perdues, choses trouvées, etc. Tout tombe dans le domaine de ces annonces. C'est la chronique de la semaine qui vient de s'écouler. Ces criées sont confiées à un homme de la paroisse qui porte le nom de crieur, qui sait lire quelquefois et bien souvent ne le sait pas du tout, mais qui rachète ce défaut par de l'aplomb, une certaine facilité à parler en public et une mémoire heureuse, qui lui a permis de se former un petit vocabulaire de termes consacrés par l'usage. Si l'on ajoute à cela le ton comique et original avec lequel il parle, les contresens et les mots merveilleusement estropiés, on aura quelque idée de cette scène, quelquefois unique en son genre. La foule s'étant donc serrée près du crieur, qui, placé sur une estrade élevée, et après avoir promené sur l'auditoire un regard assuré, « Messieurs » s'écria-t-il, « attention, j'ai bien des annonces à vous faire aujourd'hui. C'est défendu de lâcher les animaux dans les chemins avant le temps fixé par la loi. Ainsi, tous les animaux qui seront trouvés dans les chemins seront poursuivis et paieront l'amende. Les seigneurs de l'île vous font annoncer que le temps des rentes est arrivé. Ainsi, tous ceux qui doivent des odes, les ventes, l'eau et vente, et des arriérages sont avertis d'aller s'éclaircir en payant ce qu'ils doivent et d'y aller sans délai s'ils veulent avoir du gratis. Gratis. Il y aura un encan public mardi prochain. Non, mercredi prochain. » Une voix. « Non, c'est vendredi !» Le crieur. « Ah oui, messieurs, c'est une trompe !» Erreur. « C'est vendredi. là où ce qu'il y aura beaucoup de meubles de ménage trop longs à détailler. Des chevaux, des vaches, des moutons, trop longs à détailler. De plus, des charrettes, charrues, aussi trop longs à détailler. Pendant que les annonces allaient ainsi leur train, deux hommes fendaient la foule portant un lourd fardeau. Ils s'approchèrent du crieur et le déposèrent à ses pieds. « Messieurs, continua celui-ci, un veau pour l'enfant Jésus, qu'est-ce qui veut du veau ?»« Une piastre pour commencer, rien qu'une piastre pour ce beau veau bien gras, deux piastres. Il s'en va, il va s'en aller, une fois, deux fois, trois fois, adjugé, à moi, c'est moi qui l'achète. » Cependant, la foule, voyant que la séance tirait à sa fin, commençait déjà à défiler lorsque le crieur se sentit tiré par la bille. Il se baissa pour écouter quelques mots qu'on lui dit à l'oreille, puis, se relevant, « Arrêtez, messieurs, encore une annonce de grande importance. Monsieur Dunoir, notaire, vous prévient qu'il vient s'établir parmi vous et qu'il fera toutes sortes d'actes, depuis le compte de partage le plus difficile et le plus embrouillé jusqu'au plus simple billet. Il prendra meilleur marché que l'autre notaire. Les actes, actes de vente avec la coupie, copie, Saint-Chelin. Les actes de damnation, actes de donation, Six-Chelin, etc., etc. » Ici, le notaire glissa quelque chose dans la main du crieur qui reprit aussitôt. « Je vous assure, messieurs, que c'est un bon notaire, un jeune homme qui paraît ben retors dans le capablement. Il vous demande votre pratique. Il vous servira comme il faut. C'est fini, messieurs. Il n'y a plus rien pour aujourd'hui. » L'assemblée à ce signal se dispersa promptement. Le notaire seul resta, attendant que le curé fût sorti de l'église pour aller lui présenter ses respects. « Laissons monsieur Dunoir chez monsieur le curé, qui l'aura sans doute invité à dîner, et suivons le père Chauvin et sa digne compagne jusque chez eux. » Chapitre 4. La donation. De retour à la maison, l'entretien sur l'affaire importante de la donation projetée ne tarda pas à se renouer entre les deux époux. Le mari fit valoir de nouveau les raisons déjà données, et d'autres qu'il crut propre à faire goûter ce projet à sa femme. Celle-ci fit ses remarques, ses objections. Le tout fut longuement discuté, tourné et examiné sur toutes les faces, et, après mûre délibération, définitivement agréé de part et d'autre, ils appelèrent alors leur fils, et lui firent part de la résolution qu'ils venaient de prendre. Comme on le pense bien, le fils ne pouvait en croire ses oreilles. Se voir tout d'un coup seul maître et possesseur de la terre paternelle lui semblait presque un rêve. Aussi, à la réitération des offres de son père et de sa mère, mit-il moins de temps à les accepter qu'il n'en avait fallu à ceux-ci pour se décider à faire cette démarche. Il fut ensuite convenu que l'acte en serait passé le surlendemain, et tous trois employèrent le temps qui restait jusque-là à en débattre les conditions. Le jour arrivé, le père, la mère et leur garçon se préparèrent à se rendre chez le notaire. Comme c'était une affaire qui intéressait toute la famille, Marguerite fut invitée à les accompagner. On invita même, suivant l'usage, quelques parents et quelques voisins, amis intimes de la famille, et tous ensemble se dirigèrent vers la demeure du notaire. Au moment du départ, on fut indécis si l'on irait chez l'ancien ou le nouveau notaire. Mais, les avis étant pris, la majorité décida que l'on donnerait la préférence au nouveau, parce qu'il s'était fait annoncer comme un bon notaire et qu'il faisait les actes à meilleur marché que l'ancien. Un quart d'heure après, on arrivait chez le nouveau praticien. Monsieur Dunoir était en ce moment à sa fenêtre lorsqu'il vit plusieurs voitures s'arrêter devant sa porte et une dizaine de personnes en descendre. « Bon, dit-il, mes annonces font effet, voilà déjà des pratiques. » Et, Allant lui-même ouvrir la porte, il introduisit les arrivants, leur offrit poliment des sièges, où tous prirent place, Chauvin, sa femme et leur fils, près du notaire, le reste en seconde ligne, un peu à l'écart. « Qu'y a-t-il à votre service ?» demanda le notaire. « Nous sommes venus, » répondit Chauvin, « nous donner à notre garçon que voilà, et passer l'acte de donation. » « Ah !» dit le notaire en s'efforçant de faire l'agréable et lorgnant Marguerite du coin de l'œil. « Je croyais que c'était pour le contrat de mariage de mamselle. » Marguerite baissa la tête en rougissant. Tous les autres se mirent à rire. « Eh bien, mamselle, » reprit le notaire, « quand vous serez prête, je serai à vos ordres pour passer votre contrat de mariage. En attendant, faisons notre acte de donation. » Tout en parlant ainsi, le notaire avait pris une feuille de papier et y avait imprimé du pouce une large marge. Puis, après avoir taillé sa plume, il la plongea dans l'encrier et commença. « Par devant les notaires publics, etc., etc., furent présents J. B. Chauvin, ancien cultivateur, etc., et Joseph, le roi, son épouse, etc., etc., lesquels ont fait donation pure, simple, irrévocable et en meilleure forme que donation puisse se faire et valoir, à J.B. Chauvin, leur fils aîné, présent et acceptant, etc., d'une terre sise en la paroisse du Sceau au Récollet, sur la rivière des Prairies, etc., bornée en front par le chemin du roi, derrière par le très carré des terres de la côte Saint-Michel, du côté nord-est à Alexis Lavigne et à l'ouest par Joseph Sicard, avec une maison en pierre, grange, écurie et autres bâtisses suérigées, etc., etc. Cette donation ainsi faite pour les articles de rente et pensions viagères qui en suivent, savoir. Le notaire s'arrêta un moment et dit à Chauvin qu'il allait écrire les conditions à mesure qu'il les lui dicterait. 600 ibs en argent, 24 minots de blé froment, bon, sec, net, loyal et marchand, 24 minots d'avoine, 20 minots d'orge, 12 minots de pois, 200 bottes de foin, 15 cordes de bois d'érable livrées à la porte du donateur, sciées et fendues. Le donataire fournira au donateur 4 mères moutonnes et le bélier, lesquelles seront tonsurées aux frais du donataire. 12 douzaines d'œufs, 12 livres de bon tabac canadien en torquette, une vache laitière, deux... Pardon, monsieur, interrompit le père Chauvin. Vous dites seulement une vache laitière, mais je vous ai dit qu'en cas de mort, nous sommes convenus, mon fils et moi, qu'il la remplacerait par une autre. C'est juste, dit le notaire, nous allons ajouter cela. Une vache laitière qui ne meurt point. « Bon, c'est cela !» dirent les assistants. « 2 valtes de rhum, 3 gallons de bon vin blanc. » Ici, le notaire passa la langue à plusieurs reprises sur ses lèvres. « 1 cochon gras pesant au moins 200 ibs. »« Mais papa !» interrompit le garçon. « Voyez donc, la rente est déjà si forte !» « Mettez donc un cochon maigre, il ne vous en coûtera pas beaucoup à vous pour l'engraisser. »« Non, non, » dit le père, « nous sommes convenus d'un cochon gras. Tenons-nous-en à nos conventions. » Là-dessus, longue discussion entre eux, à laquelle tous les assistants prirent part. À la fin, le notaire parut comme illuminé d'une idée subite. « Tenez, » s'écria-t-il, « je m'en vais vous mettre d'accord. Vous, père Chauvin, vous exigez un cochon gras. Vous, le fils, vous trouvez que c'est trop fort. Eh bien, mettons un cochon raisonnable. » C'est cela, dirent ensemble tous les assistants. En même temps, un éclat de rire, mais étouffé presque aussitôt, fit tourner tous les yeux du côté de Marguerite, qui, depuis longtemps, faisait tous ses efforts pour se contenir. Le notaire la regarda en fronçant légèrement les sourcils. « Mamselle, dit-il, pourrais-je savoir le sujet de... »
« Chut, Marguerite !» dit le père.
Vinrent ensuite les clauses importantes de l'incompatibilité d'humeur, du pot et ordinaire, du cheval et de la voiture en santé et en malade, et puis, à la fin, l'enterrement des donateurs, quand il plairait à Dieu de les rappeler de ce monde. Nous ferons grâce à nos lecteurs du reste des charges, clauses et conditions de ce contrat, lesquelles furent de nouveau longuement débattues, et qui en prolongèrent la durée bien avant dans l'après-midi. Aussi, ce ne fut pas sans une satisfaction générale que le notaire annonça qu'il allait en faire la lecture. La lecture finie, le père, la mère et leur garçon touchèrent la plume en même temps que le notaire en traçait trois croix entre leur nom et prénom, lesquels devaient compter comme leur signature. Puis le notaire signa lui-même son nom, en l'enlaçant d'un tournoyant paraphe, et procéda de suite à l'opération importante de mentionner les renvois et compter les mots rayés. 1, 2, 3, 4, 16 renvois en marge bon. 1, 2, 3, 4, 42 mots rayés et 8 barbeaux sont nuls. « Là, dit le notaire, voilà qui est fini. Il n'y a que mamselle qui ne signe pas, mais je l'attends à son contrat de mariage. On verra si elle rira alors autant qu'elle le fait maintenant. » Après avoir tiré sa bourse et payé le coût de l'acte selon le nouveau tarif publié à la porte de l'église, le père Chauvin et tous les invités gagnèrent leur voiture et se mirent en route. Chapitre 5. Suite de la donation. Les discussions qui avaient eu lieu chez le notaire pendant la passation de l'acte avaient été si fréquentes et si prolongées que, comme nous l'avons déjà dit, le jour était près de finir lorsque Chauvin et ses amis arrivèrent chez lui. Il les retint tous à passer le reste du jour et la soirée avec lui. On y convia même, suivant l'usage en pareille circonstance, d'autres voisins et amis, et tous ensemble félicitèrent le père et le fils sur l'acte qu'ils venaient de conclure. Et ce jour fut joyeusement terminé par un abondant repas, où les talents culinaires de la mère Chauvin et de sa fille se firent remarquer. Cependant, tous les convives de Chauvin n'envisageaient pas du même œil la démarche qu'ils venaient de faire. Quelques-uns trouvaient le fils très bien avantagé, et portait même la sollicitude paternelle jusqu'à entrevoir la possibilité d'une alliance très prochaine entre l'heureux donataire et l'une de leurs filles. D'autres, au contraire, doutaient beaucoup de l'heureux résultat que devait opérer ce changement survenu dans la direction des affaires de cette famille. Ils disaient même, dans leur langage naïf et expressif, que le fils s'était « enfargé ». Qu'un des moindres défauts de la donation était d'être trop forte, et qu'avec le peu d'aptitude qu'on connaissait au fils, il ne pourrait supporter un pareil fardeau, et n'en ressoudrait jamais. Ce n'était plus, en effet, le père qui gouvernait alors. Il n'était plus chef que de nom. Le fils seul avait les affaires. Pendant quelque temps, le père lui vint en aide par ses avis et ses conseils. Puis, quand il le jugea assez fort, il le laissa marcher seul. Mais on ne fut pas longtemps sans s'apercevoir de grands changements dans cette famille, naguère si étroitement unie. Ce n'étaient plus ces rapports familiers et intimes entre le père et le fils, mais une certaine réserve, de la froideur, de la défiance même, que l'on surprenait entre eux. C'était alors le créancier et le débiteur qui s'observaient mutuellement. Le père, sachant que la pension était forte, était en proie à une vive inquiétude de savoir si elle lui serait exactement payée. Le fils, de son côté, tâchait de deviner, à l'air de son père, s'il n'aurait pas en lui un créancier dur et exigeant. Cependant, tout alla passablement bien la première et la seconde année. Les articles de la pension furent assez exactement payés à leurs diverses échéances. Même le cochon raisonnable fut ponctuellement délivré en nature au temps fixé. La vache qui ne meurt point continuait de se porter à merveille et à faire régulièrement ses devoirs de laitière et d'épouse. Mais bientôt, quelques retards dans la livraison de certains items, causés par la mauvaise récolte et une gêne temporaire, emmena quelques observations de la part du père. Le fils répliqua. Quelques mots un peu brusques furent échangés de part et d'autre. Le père se plaignit de la mauvaise qualité des articles, que le pot et ordinaire n'était point tel que convenu, que les chevaux étaient toujours occupés quand ils voulaient s'en servir, etc., etc. D'une parole à une autre, les choses s'aigrirent, et la guerre éclata. Le père, invoquant la clause de l'incompatibilité d'humeur, déclara formellement s'en prévaloir et vouloir aller loger ailleurs. La mère et les amis communs tentèrent, mais inutilement, de lui faire révoquer sa résolution. Il partit avec sa femme et Marguerite, abandonnant la terre paternelle entre les mains de son fils. Les choses, loin de s'améliorer par ce brusque départ, n'en allèrent que plus mal. Le fils, débarrassé de la surveillance paternelle, qui lui était à charge depuis longtemps, ne sut pas profiter des ressources qu'il avait en main et négligea entièrement les travaux de la terre. La rente en souffrit cruellement, et le père se vit restreint au plus strict nécessaire, qu'il arrachait avec la plus grande peine de son fils, qui ne le lui abandonnait que comme à titre de don gratuit. Il en vint même à porter une main tremblante et presque sacrilège sur le vieux coffre où gisaient les épargnes si soigneusement conservées. Un tel état de choses ne pouvait durer longtemps. Le père alla consulter des hommes de loi qui lui conseillèrent de faire vendre la terre à la charge de la pension. L'idée de vendre le patrimoine de ses ancêtres lui était trop amère. Les conseils plus pacifiques de ses amis l'engagèrent à la reprendre. Ils se chargèrent de négocier l'affaire avec le fils. Ils réussirent heureusement à opérer un rapprochement entre eux et parvinrent même à les réconcilier. Ils firent entendre raison au fils, lui représentèrent qu'il n'était plus possible de continuer les choses sur ce pied et finirent par lui persuader qu'il était de son intérêt, comme de celui de son père, que la donation fut révoquée. L'acte fut donc résilié, à la satisfaction mutuelle des parties. Et, après 5 années de déboires et de chagrins, la terre paternelle rentra sous la conduite de son ancien propriétaire. Chapitre 6. La ruine du cultivateur. La donation faite dans des motifs si louables en apparence avait porté, comme on l'a vu, de funestes coups à cette famille. Cependant, malgré la réconciliation opérée entre le père et le fils, malgré l'oubli du passé qu'ils venaient de se jurer l'un à l'autre, on chercherait en vain au milieu d'eux le même bonheur et la même harmonie qu'autrefois. Les choses pourtant avaient été remises sur le même pied qu'auparavant. Les mêmes hommes avaient repris leur première position, mais avec quelle différence et quel changement! Le fils, pendant qu'il avait eu le maniement des affaires, avait laissé dépérir le bien et contracté des habitudes d'insouciance et de paresse. Le courage et l'énergie du père s'étaient émoussés au contact du repos et de l'inaction. Il en coûtait beaucoup à son amour-propre de se remettre au travail comme un simple cultivateur. Pendant les quelques années qu'il avait été rentier, il avait joui d'une grande considération parmi ses semblables, qui, n'envisageant d'ordinaire que les dehors attrayants de cet état, l'avait bien souvent regardé avec des yeux d'envie. Il lui fallait maintenant descendre de cette position, pour se remettre au même niveau que ses voisins. Sa condition de cultivateur dont il s'enorgueillissait autrefois, lui paraissait maintenant trop humble et avait même quelque chose d'humiliant à ses yeux. Poussé par un fol orgueil, il résolut d'en sortir. Il avait remarqué que quelques-unes de ses connaissances avaient abandonné l'agriculture pour se lancer dans les affaires commerciales. Il avait vu leurs entreprises couronnées de succès. Toute son ambition était de pouvoir monter jusqu'à l'heureux marchand de campagne, qu'il voyait honoré, respecté, marchand légal du curé, du médecin, du notaire, et constituant à eux quatre la haute aristocratie du village. En vain lui représentait-on que, n'ayant pas l'instruction suffisante, il lui serait impossible de suivre les détails de son commerce, de manière à pouvoir s'en rendre compte. À cela, il répondait que sa fille Marguerite était instruite et qu'elle tiendrait l'état de ses affaires. Sourd à tous les conseils et entraîné par la perspective de faire promptement fortune, il se décida donc à risquer les profits toujours certains de l'agriculture contre les chances incertaines du commerce. Le lieu qu'il habitait n'étant point propre pour le genre de spéculation qu'il avait en vue, il loua sa terre pour un modique loyer et alla s'établir avec sa famille dans un village assez florissant dans le nord du district de Montréal. Il y acheta un emplacement avantageusement situé, y bâtit une grande et spacieuse maison et vint faire ses achats de marchandises à la ville. Le commerce prospéra d'abord, plus peut-être qu'il n'avait espéré. On accourait de tous côtés chez lui. Pour se donner de la vogue, il affectait une grande facilité avec tout le monde, accordait de longs crédits, surtout aux débiteurs des autres marchands des environs, qui, trouvant leur compte assez élevé chez leurs anciens créanciers, venaient faire à Chauvin l'honneur de se faire inscrire sur ses livres. Ce qu'il avait souhaité lui était arrivé. Il jouissait d'un grand crédit. Il était considéré partout. On le saluait de tous côtés. Et de bien loin à la ronde, on ne le connaissait que sous le nom de Chauvin le Riche. Lui-même ne paraissait pas insensible à ce pompeux surnom, et il lui arriva même une fois d'indiquer sous ce modeste titre sa demeure à des étrangers. Il va sans dire que les dépenses de sa maison étaient en harmonie avec le gros train qu'il menait. Tout à coup, les récoltes manquèrent, amenant à leur suite la gêne chez les plus aisés, la pauvreté chez un grand nombre. Des pertes inattendues firent d'énormes brèches à sa fortune. Ses crédits, qui paraissaient les mieux fondés, furent perdus. Pour la première fois de sa vie, il manqua à ses engagements envers les marchands fournisseurs de la ville, qui, après avoir attendu assez longtemps, le menacèrent d'une saisie et de faire vendre ses biens. Cette menace sembla redoubler son énergie. Il se raidit de toutes ses forces contre l'adversité et résolut, pour faire face à ses affaires, de tenter le sort de l'emprunt. Cette démarche, loin de le tirer d'embarras, ne servit qu'à le plonger plus avant dans le gouffre. L'usurier, fléau plus nuisible et plus redoutable au cultivateur que tous les ravages ensemble de la mouche et de la rouille, lui prêta une somme à gros intérêts, remboursable en produits à la récolte prochaine. La récolte manqua de nouveau. Il continua quelque temps encore à se débattre sous les coups du sort et se vit à la fin complètement ruiné. La saisie dont on l'avait menacé depuis longtemps fut mise à exécution contre lui. L'exploitation de son mobilier suffit à peine à payer le quart de ses dettes. Ses immeubles furent attaqués à leur tour et, après les formalités d'usage, vendus par décret forcé. Et la terre paternelle, sur laquelle les ancêtres de Chauvin avaient dormi pendant de si longues années, fut foulée par les pas d'un étranger.